Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, des clés pour transmettre la foi au programme aujourd'hui, dans cette première séquence. Et toute la semaine, vous pourrez découvrir, pour intervenante au micro, dans un instant, le docteur Isabelle Morel, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, directrice adjointe à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique et responsable du service de formation du diocèse de Besançon. Docteur Isabelle Morel, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous restez donc jusqu'à la fin de la semaine. Parmi nous, on va trouver toutes les clés possibles pour avoir ces bonnes clés de transmission pour la foi. Qu'est-ce que transmettre la foi, docteur Morel? Alors, grande question, et on attend toutes les bonnes réponses. Et merci.
S'il y avait des recettes et des réponses toutes faites, ça se saurait, on les appliquerait depuis longtemps. Voilà, la transmission de la foi, c'est un défi en permanence, parce que en fait, ça prend en considération l'ensemble des éléments de la société qui sont à ajuster à la manière de transmettre. Et donc, de tout temps, quand on fait l'histoire de la catéchèse ou de la transmission de manière générale, il a fallu s'ajuster aux défis du temps. Voilà. Donc, la manière de transmettre a évolué. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, ça soit un peu différent.
Quels sont les enjeux de cette transmission, les grands enjeux pour aujourd'hui, notre époque et notre temps?
Eh bien, vous voyez, pendant très longtemps, si on regarde par exemple la période du Moyen-Âge, la période de la Renaissance, où on était en pleine chrétienté encore, il suffisait de transmettre les mots de la foi. Hein. On avait le petit catéchisme, questions-réponses, que l'on apprenait par cœur. Mes grands-parents ont encore fait ça, mon papa, ma maman aussi, voilà. Donc, vous voyez, jusqu'au milieu du XXe siècle, ça a été le mode de transmission privilégié. On apprenait les vérités de la foi en apprenant par cœur, en mémorisant les réponses aux questions. Ça permettait de mettre des mots sur ce que l'on faisait de manière naturelle. On ne se posait pas la question d'aller à la messe ou pas le dimanche, on y allait. On ne se posait pas la question de prier ou pas à la maison, on priait. On était dans une situation de pleine chrétienté. Et donc, d'une certaine manière, il suffisait, entre guillemets, de mettre des mots sur ce que l'on faisait de manière naturelle. À partir du milieu du XXe siècle, ça a beaucoup évolué. Et du coup, le mode de transmission, s'il était resté comme ça, serait allé dans une impasse complète, parce que mettre des mots sur une pratique qui n'existe plus, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, en fait, on cherche à ajuster à la fois cette dimension de connaissance intellectuelle, parce qu'on en a besoin, il y a toujours des mots à apprendre, sinon on s'invente sa propre foi à soi-même. Mais il faut aussi travailler sur, on va dire, ce mouvement intérieur qui naît, cette vie intérieure, qui est nourrie par la prière, par la pratique liturgique, par les sacrements, qui ne sont plus aussi naturels qu'avant dans la pratique familiale ou simplement paroissiale.
Alors dans cette transmission de la foi, dans cet enjeu qui est bien réel, vous avez une particularité et puis une mission bien précise, c'est celle aussi de la formation.
Oui, la formation des principaux acteurs dans la transmission, c'est en gros le travail de l'ISPC, l'Institut supérieur de pastorale catéchétique, où nous formons en fait des laïcs, des prêtres, des religieux qui vont être en responsabilité dans leur diocèse ou dans leur pays, parce que nous en accueillons de tous les continents.
Alors on ira un peu plus loin en conclusion, c'était juste pour donner quelques informations. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette transmission de la foi, docteur Morel?
Eh bien en fait, c'est une bonne question. Parce qu'il y a quelque chose de très personnel au final.
Je rencontre une personne passionnée.
Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui passionne? C'est la volonté de transmettre quelque chose qu'on a reçu, mais quelque chose qui nous fait nous-mêmes vivre. Sinon, on ne le ferait pas de manière simplement mécanique. Vous voyez, c'est pas qu'une question de pédagogie et de technique à appliquer. Il y a quelque chose dans la foi, et ça remonte à ce que disait saint Augustin. La foi, c'est à la fois la transmission de ce qu'il appelait la fides quae creditur, c'est-à-dire, en traduction, ce qu'il faut croire. Fides, c'est le mot foi. Creditur, c'est le verbe croire. Fides quae creditur, c'est ce qu'il faut croire. Donc, le contenu de la foi, vous voyez, c'était le catéchisme question-réponse, par exemple. C'est le catéchisme de l'Église catholique. C'est le Notre Père, c'est les paroles du Je vous salue Marie, que je ne peux pas inventer. J'en hérite et j'ai besoin qu'on me les transmette. Mais saint Augustin disait aussi, il y a la fides quae creditur. Il y a une lettre qui change. Il n'y a plus le... Voilà. Et c'est la foi par laquelle je crois, c'est-à-dire ce mouvement d'adhésion personnelle. Et ça, c'est quelque chose de vivant qui ne peut pas se forcer chez les personnes. Et on a besoin des deux, à la fois de transmettre cette fidesque, ces mots qu'on ne peut pas inventer seul, et en même temps de faire mûrir cette fidesque, ce mouvement intérieur qui habite chacun, cette vie intérieure qui se travaille par la prière, par les grands rassemblements, par les pèlerinages, par les conférences aussi, parce qu'il y a quelque chose qui était tout brûlant à l'intérieur qu'on ne sait pas trop bien décrire, et on a besoin d'articuler les deux. Voilà. La liturgie est le lieu par excellence pour ça aussi. Donc, vous voyez bien qu'il y a une articulation à chercher, et la transmission, c'est complexe parce que c'est créer les conditions pour que cette articulation puisse advenir.
Alors, cette articulation est particulièrement compliquée aujourd'hui dans ce mouvement que vous décrivez, ce mouvement aussi intérieur de prière et de vie dans un monde déchristianisé où il y a une perte de la foi et une vraie crise peut-être d'évocation aussi.
Oui,
et,
bien sûr.
Alors, on en est où ? On s'en sort comment garder la tête hors de l'eau et poursuivre dans cette transmission de la foi ?
Aujourd'hui, en fait, on est dans des temps qui avancent et évoluent très très vite. Et quand on prend le temps de regarder ce qui caractérise l'époque dans laquelle nous nous situons, il y a en fait trois grands éléments qui viennent impacter la question de la transmission. C'est à la fois la crise écologique, on va pouvoir s'en dire quelques mots un peu plus, le scandale des abus sexuels, y compris dans l'Église et surtout dans l'Église, et puis la révolution numérique qui change complètement notre rapport au savoir, à l'autorité, à la vérité et donc à la transmission.
Alors, c'est bien de noter aussi ces trois crises. Vous intervenez à Lourdes dans le cadre du pèlerinage du Rosaire et vous êtes la seule des conférencières parmi tous les intervenants à présenter trois conférences sur face à la crise écologique, face au scandale des abus sexuels, face à la révolution numérique. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui pour intervenir sur ces trois thèmes et dans le cadre de ce pèlerinage à Lourdes ?
En fait, on m'a proposé une conférence s'intitulant « Transmettre la foi en des temps troublés ». Soit trois fois la même, trois jours de suite, soit trois différentes. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce qu'étaient les temps troublés, j'ai pas pu choisir entre ces trois éléments-là. Vous voyez, la crise écologique est tout aussi importante que le scandale des abus, que l'impact du numérique. Et donc, c'était la très belle occasion de pouvoir articuler les trois.
Vous avez présenté votre première conférence, je crois, hier soir. Des questions-réponses sur quelle conférence c'était ?
Alors, hier soir, c'était la transmission face à la crise écologique.
Voilà. Et les questions ?
Alors, les questions, on n'en a pas eu énormément à la fin, mais il y a eu beaucoup d'intérêt sur l'impact que ça avait par rapport à notre manière de lire la Bible, notamment. Notamment les premiers passages de la création, car vous voyez bien, c'est notre relation à la création qui est interrogée.
Il faut s'interroger sur toutes ces crises à la fois. Et en deux mots, avant de vous retrouver demain et jusqu'à la fin de la semaine, est-ce que vous avez de bonnes clés à transmettre à nos amis auditeurs qui vont vous suivre pour traverser chacune de ces crises le plus paisiblement possible ?
Eh bien, je crois que la première des clés, c'est de ne pas hésiter à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux pour regarder les choses en face. Parce que, par exemple, la crise écologique, on en entend parler très régulièrement, mais on n'arrive pas à prendre la mesure de ce que ça produit au point d'aller nous faire changer nos habitudes quotidiennes. La crise des abus sexuels, on en a presque ras-le-bol aussi de se prendre ces images-là en pleine figure parce que ça vient dénaturer l'Église. Et donc, on a parfois aussi envie de le mettre un peu de côté. Donc, c'est la même chose aussi pour le numérique. Il faut prendre le temps de regarder les choses en face.
Prendre le temps de regarder, prendre le temps d'écouter.
D'écouter, parce que il y a aussi plein de personnes qui ont des choses à dire là-dessus, y compris des théologiens.
Et vous êtes, et j'ai oublié de l'annoncer en tout début d'émission et de présentation, vous êtes vous-même théologienne. Exactement. Docteur Isabelle Morel, je vous propose de vous retrouver dès demain, dans cette même émission, à la même heure, et jusqu'à vendredi, à demain.
Au revoir.